Amen. Amen. Il y a 200 ans et plus, c'était encore la coutume ici en France, d'envoyer des criminels aux galères. Pour de longues années, parfois à perpétuité. Les galériens étaient enchaînés à leur banc avec seulement assez de place pour actionner les rames. Un diplomate de distinction fut amené à visiter à Toulon, où les galères étaient à l'ancre et selon l'usage, il pouvait libérer les prisonniers de son choix. Il s'approcha des galériens, parla avec eux et s'enquit des raisons qui les avaient amenés aux galères. Il découvrit que presque sans exception, les prisonniers attribuaient leur condamnation à quelques injustices, fausses accusations, erreurs d'identité, mépris ou autre chose de ce genre. Il arriva auprès d'un autre qui lui dit « J'étais un criminel endurci, j'ai mérité la mort et ce n'est qu'à la grâce de Dieu que je dois être vivant. » Alors le diplomate répondit « Misérable canaille, votre présence ici contamine tous ces braves hommes. Vous ne resterez pas ici un jour de plus. » Se tournant alors avec un sourire vers son escorte, il dit « Voici l'homme que je veux gracier. » La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Telle est aussi la grâce divine. Elle s'exerce envers des indignes et on appelle cela une faveur imméritée. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Dans la Bible, nous lisons cette histoire dans Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15 et les versets 11 à 32. Luc, chapitre 15. À partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, vivant de la débauche. Verset 14, « Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Mais tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une miséricorde, d'une pitié profonde pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Verset 27, le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu, voici qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alors, l'histoire là de deux jeunes fils, un qui s'en ira faire sa vie. Et n'est-ce pas là l'image de personnes qui veulent faire sa vie, qui veulent prendre la part de l'héritage et aller faire ce qu'ils veulent. La nature de l'homme est une nature pécheur, pécheresse. L'homme et la femme ont été créés purs, c'est vrai. Mais suite à la transgression volontaire commise par ce dernier et la désobéissance, l'homme est devenu pécheur. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, de même la mort, a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes tous pécheurs. En conséquent, l'état des hommes en dehors de Christ, en dehors de la rédemption, est marqué par le péché. David, un homme de la Bible, dira ceci, « Mais depuis ma naissance, je suis coupable, et quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Il dira également, dès le ventre de leur mère, les méchants s'égarent. Depuis leur naissance, ils profèrent des mensonges. Dès le départ, l'homme est pécheur. Peu importe les déclarations, les témoignages des uns et des autres, dès le départ, l'homme sans Christ, l'homme sans Dieu, est dans un état de mort et de péché. Dans le Nouveau Testament, nous lisons ceci, écrit de la main de Paul. Que dirons-nous donc ? Romains 3, versets 9 à 10. Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et aussi, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible témoigne aussi que l'homme meurt une seule fois, après quoi vient le jugement. La théorie de que nous avons plusieurs vies n'existe pas. L'homme naît une fois et meurt une fois. L'homme est pécheur dès le départ, dès la naissance, est marqué par le péché. L'homme en dehors de Jésus, l'homme en dehors de Dieu, est de nature pécheur. Mais alors, comment peut-il faire pour être sauvé? Comment peut-il faire pour échapper à cette condition? Venir à lui et se repentir. Comme cet homme dans la Bible, Luc chapitre 18, le verset 13, un collecteur d'impôts qui se retirera dans un coin, n'osant même pas lever les yeux, se frappant la poitrine et murmura, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Venir à Jésus. Comment faire ? Venir à Jésus, tout simplement, par la repentance, par cet acte, en lui disant un simple oui. Venir à Jésus, lui, la grâce, et lui qui fait grâce. Cette grâce, ce fils-là l'a expérimenté, ce fils, alors qu'il disait, je vais retourner vers mon père, mais je ne pourrai plus être appelé son fils, je préfère être un travailleur, un ouvrier, un esclave, pour lui. Mais il ne connaissait pas son père. Son père ne lui posera jamais la question par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il a vécu ou ce qu'il a fait dans sa vie passée. Il l'a tout simplement pris dans ses bras. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Romains 5, versets 6 à 11. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine acceptait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui est la grâce. Un homme de Dieu rendra témoignage avec Christ est venu la grâce et la vérité. Tout est venu par Christ. C'est par lui, lui qui a accompli toutes choses. C'est lui qui libère, c'est lui qui restaure. C'est lui, ce n'est pas en faisant plusieurs choses, en s'exerçant avec minutie à pratiquer des choses qui pour essayer de nous sortir de cette situation. Non, c'est Christ. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui est venu. C'est lui qui a revêtu un corps mortel. Lui, le Dieu immortel. C'est lui qui revêt un corps mortel pour pouvoir nous donner, pour donner sa vie et pouvoir nous affranchir du péché et nous donner le salut. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, peu importe le péché dans lequel tu te trouves, il t'accueille les bras ouverts. C'est lui qui, que Dieu a envoyé pour nos péchés. Lui, le Dieu immortel, revêtu un corps mortel. Lui qui est venu sur terre. Les portes étaient fermées pour lui. Il a fallu qu'il naisse dans une étable, parmi des animaux, là où ça sentait mauvais. C'est là qu'il est né. Marchant sur la terre, rejeté des hommes. Comme nous le relate Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. Qui a cru à notre message? Qui a été révélé? Qui a été révélé à la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont de nos souffrances qu'il a pris sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muet devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie pour la contrainte suite à un jugement, et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort. Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, et il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. C'est Christ. C'est lui qui a été frappé. C'est lui qui a porté nos péchés. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai commis, la grâce, elle m'accepte tel que je suis. Cet homme de Dieu qui a composé ce chant magnifique, Amazing Grace, dira à la fin de ses jours, sur son lit de mort, je suis convaincu d'une chose, c'est que je suis le plus grand des pécheurs, mais que Jésus est le plus grand des sauveurs. Comme ce fils qui est parti avec son héritage et faire n'importe quoi. Le Père ne l'a pas rejeté. Au contraire, la grâce de Dieu, elle accueille n'importe qui, n'importe quelle personne, peu importe ce qu'il a commis, ce qu'il a fait, ce qu'il était auparavant, peu importe les mérites. La grâce de Dieu, elle l'accueille. Tout comme ce fils se posait la question parce qu'il ne connaissait pas le Père. Il disait, je vais revenir, mais est-ce qu'il m'acceptera parce que j'ai fait ci? Est-ce qu'il m'acceptera parce que j'ai fait ça? Est-ce qu'il m'acceptera parce que j'étais une prostituée? Est-ce qu'il m'acceptera parce que j'ai commis un vol? J'ai tué j'ai violé, etc. Peu importe. Est-ce que Dieu m'acceptera tel que je suis, comme je suis? Est-ce que Christ m'acceptera tel que je, comme je suis? J'aimerais te dire oui. Tel que tu es. Il ne te demande pas d'être l'homme le plus parfait au monde, ni la femme la plus extra au monde parfaite. Tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es, et de venir à lui. Il dira ceci en Jean chapitre 19, les versets 30. Tout est accompli. T'inquiète pas. J'ai payé la dette. Tu n'as rien à faire. Pas besoin de payer, pas d'argent, rien du tout. À part un simple oui. Viens à moi tel que tu es. Je t'accepterai tel que tu es. Bien sûr, la grâce, elle transformera, elle te transformera. Malgré tous les efforts que tu as pu faire, malgré tous les efforts ou les recherches que tu as pu accomplir pour pouvoir chercher une quelconque liberté, la grâce, elle libère réellement. Je peux même témoigner que j'étais un alcoolique dépendant et la grâce a été manifestée envers moi. Et la grâce m'a délivré et la grâce m'a restauré. Jésus m'a accueilli tel que je suis et m'a amené de progrès en progrès. Pas d'un seul coup, mais de progrès en progrès. N'attends pas que tu sois parfait. N'attends pas le moment favorable. Maintenant, viens à lui. Maintenant, fais-lui confiance. Maintenant, baisse ta garde. Ne combats plus par tes propres forces, mais abandonne-toi à la grâce de Dieu, cette grâce qui transforme et qui renouvelle. Le Fils reviendra et sera accueilli. Il y aura même une fête en son honneur. Et entre parenthèses, j'aimerais mettre le deuxième fils. Je ne t'ai jamais désobéi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Je ne t'ai jamais désobéi. J'étais toujours là avec toi. J'ai fait le service. J'ai accompli tout ceci. J'ai accompli tout cela. J'ai fait cela pour toi. Il ne connaissait pas son père. Tout était à lui. Tout était à lui. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il n'attend pas que nous fassions des choses pour que nous méritions quelque chose. Non, la grâce de Dieu, elle est là. On ne la mérite pas. Mais Dieu nous la donne. Aucun mérite, même si je ferai beaucoup de choses pour le Seigneur. La grâce de Dieu, elle ne se mérite pas, elle s'accepte. C'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. Et en cela, je suis aimé de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es aimé de Dieu, malgré les faiblesses, malgré tout, malgré, tu es aimé de Dieu. La grâce, elle est là. Et sans plus tarder, j'aimerais t'inviter, toi qui n'as jamais pris le pas, à faire confiance au Seigneur, à faire confiance à la grâce de Dieu pour quelque chose de particulier que tu n'arrives pas, par la foi que tu places dans le Seigneur de grâce cet après-midi. Fais-lui confiance et tu ressortiras de ce lieu, non pas comme tu es venu, mais transformé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Le Père nous aime du même amour qu'il a aimé Christ. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime du même amour qu'il a manifesté envers Christ. En cela, nous avons la grâce. Faveur imméritée. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble le Seigneur afin d'implorer sa grâce. Et sans plus tarder,